par rapport au dernier que vous avez.
Nous allons terminer en voyant le point de vue de la division ordonnée à la définition. Il faut comprendre que la division va diviser le genre pour permettre d'arriver à la définition. La division est en fonction de la définition. Et on peut dire que le but de la division, c'est d'essayer de clarifier. Ça nous fait comprendre le besoin de notre intelligence de clarifier. On est en face d'un tout confus, et les différents tout qu'on pourrait situer, on va donner deux, je crois que j'ai pas tous les tout possibles, n'est-ce pas ? C'est intéressant, ça montre le caractère différent de la division. Mais c'est toujours par rapport à quelque chose qui implique une confusion, une potentialité, que l'intelligence alors divise, et que l'intelligence en divisant essaie de clarifier. Ensuite, elle recompose. C'est la démarche normale. Au fond, toute analyse implique une division. Dès que l'intelligence analyse, elle divise. Alors les divisions se présentent de diverses manières, selon des manières différentes, en fonction même de ces tout. Alors prenez le tout intégral et prenez le tout organique. Alors on parle aussi du tout subjectif. Le tout subjectif, c'est celui justement de l'universel, qui implique des quantités de sujets, d'individus contenus dans ce tout universel. Le tout subjectif. L'universel genre, qui est un tout confus, va permettre des divisions multiples, et ces divisions multiples vont permettre d'arriver à aboutir à ce que représente la définition. Bon. Je vais maintenant tout de suite passer, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Lentement. Oui, ça augmente l'examen, c'est ça. C'est ça. Voilà l'intérêt, voilà. Je n'ai qu'à poser des questions. Puisque vous avez tout compris. Alors, je peux avancer. Alors, nous allons maintenant essayer de voir, après avoir essayé de comprendre la logique de l'universel, c'est-à-dire avoir situé ce que c'est que l'universel par rapport au concept, nous allons maintenant entrer dans l'affirmation, le jugement. Alors, avant de voir la logique du jugement, je vous dis un petit mot d'ordre critique sur le jugement. C'est important de saisir ce que représente l'appréhension. Ce que nous avons dit précédemment, la première opération élémentaire. Et pour bien se dire, c'est la première opération élémentaire. C'est-à-dire, c'est une opération que nous pouvons saisir à partir du jugement. C'est toujours enveloppé d'un jugement. Il n'y a pas d'appréhension à l'état pur. Et c'est en ce sens-là qu'il ne faut pas confondre l'appréhension et l'intuition. L'intuition est toujours un jugement. Et nous avons quelquefois l'impression que l'intuition, c'est une saisie pure, un simple regard, mais ça implique toujours un jugement. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que le jugement a un caractère particulier d'impliquer la conscience. On est conscient de juger. C'est propre du jugement. On a une conscience de juger. Parce que le jugement implique le discernement criminel. Dans la table, on a du judicio. Et le judicio a une saveur au niveau du jugement du juge. Alors que krinein en grec, c'est toujours intéressant de voir les aspects différents du mot. Krinein en grec veut dire discerner. Quand vous jugez, vous discernez. Et c'est beaucoup plus juste. Tandis que le jugement tel qu'on le donne en latin, le judicium, c'est celui qui porte un jugement. Vous voyez ? Au tribunal, on porte un jugement. Mais porter un jugement, c'est vrai, c'est un certain jugement. C'est un certain discernement, mais c'est un jugement très particulier parce qu'il se fait, c'est un jugement légal, c'est un jugement au niveau du droit. Tandis qu'au contraire, le krinein grec, qui notion de crinène implique le discernement. Et je crois qu'il faut tout le temps revenir à cette idée que c'est le discernement. L'intelligence discerne. L'intelligence a la possibilité de séparer et de discerner pour mieux pénétrer, pour aller plus loin. Alors nous avons la conscience de ce discernement et de ce jugement. Pourquoi ? Parce que le jugement est un acte parfait de l'intelligence. Tandis que l'appréhension est un acte élémentaire, donc essentiellement d'appréhension. Je ne reste jamais dans une appréhension. Un parfait comme une opération d'attente, toujours. C'est une opération d'attente. Je ne reste jamais à ce niveau-là. Ça se termine toujours dans un jugement. Et c'est pour ça que c'est le jugement qui a ce point de vue de la conscience que j'ai de discerner. Ajoutons que si l'assimilation, que si l'appréhension est de l'ordre de l'assimilation, nous avions dit assimilation intentionnelle, si vous vous souvenez bien, une assimilation intentionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une assimilation intentionnelle différente à l'assimilation nutritive, à l'assimilation biologique, vous voyez ? Pensez toujours à la boulangerie quand vous sentez la bonne odeur du petit pain du matin, c'est une assimilation intentionnelle que vous faites, au niveau simplement de l'intentionnalité. Mais vous ne vous nourrissez pas réellement. Mais il y a quand même une assimilation intentionnelle. Eh bien, le discernement et le jugement, c'est non pas un acte d'assimilation, mais un acte d'adhésion. Avec le jugement, j'adhère. D'adhésion ou de non-adhésion ? Que le jugement implique l'affirmation et la négation. Ça, c'est quand même très important pour bien saisir ce que c'est que le jugement, qu'il y ait cette dualité. Je ne fais pas ça dans l'appréhension. L'appréhension est simple. Tandis que le jugement, par lui-même et en lui-même, implique tout de suite les deux. Vous avez tout de suite affirmation et négation. C'est ce qui explique quand même le point de vue de la dialectique. Fondamentalement. Parce qu'affirmation et négation, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de dépasser ce point de vue-là d'affirmation et de négation par une espèce de synthèse ? Les deux opérations presque immédiates, comme naturelles de mon intelligence, affirmées, liées, très très vite. Alors l'affirmation implique une adhésion, j'adhère, quand je dis l'affirmation c'est tout. Et la non-adhésion, je ne dis pas que c'est le recul, mais la non-adhésion c'est justement quand vous vous séparez, une possibilité de recul. Quand vous dites oui, vous vous engagez. Quand vous dites non, vous gardez vos distances. Toujours, par rapport à la réalité ou par rapport à ce que dit quelqu'un. N'est-ce pas ? Oui, je suis d'accord. Mais vous engagez. Il y a un certain engagement. C'est pour ça qu'on hésite toujours à dire oui. On a toujours plus de peine à dire oui qu'à dire non. Non, on le dit presque spontanément, ça va très très vite, parce qu'on garde du temps comme ça. C'est assez curieux de voir ça, de voir le oui et le non. Alors c'est à l'intérieur du jugement que je vois qu'il y a cette distinction, affirmation et négation. Alors qu'est-ce que c'est que l'adhésion ? Comprendre ce mouvement particulier d'intelligence qui adhère. Et c'est à cause de cette adhésion que certains diront que le jugement qui implique une adhésion implique la volonté. Et quand Descartes dit que le jugement est un acte volontaire, pourquoi il dit ça ? Parce que justement, une adhésion implique quelque chose de volontaire. Je m'engage. Dans un engagement, il y a quelque chose de volontaire. Alors ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est très vrai, dans un engagement pratique, il y a quelque chose de volontaire. Et tout engagement pratique implique quelque chose de volontaire. Mais il y a une adhésion plus profonde et plus radicale que l'engagement pratique, qui est l'intelligence elle-même, le jugement est vraiment un acte d'intelligence. C'est l'intelligence qui reconnaît que la chose est telle, et elle y adhère. Et donc l'adhésion, c'est le mode particulier de cette seconde opération. seconde opération qui est en réalité la première opération au niveau perfection. Celle-ci est la première au niveau génétique. Au niveau génétique, c'est-à-dire au niveau de l'imperfection. En réalité, elle n'est pas une opération parfaite, elle n'est qu'un élément. Donc il y a ce mode d'addition. Vous voyez, l'aspect vital, la vie se développe d'abord dans une assimilation. Puis il y a comme un certain affrontement. Et l'affrontement implique, l'affrontement permet de prendre un peu ses distances. Dans le jugement, il y a un certain affrontement, toujours. C'est un certain affrontement parce qu'on a peur de la réalité. La réalité me dépasse. La réalité est quelque chose que je n'assimile pas. Et donc il y a toujours dans la réalité quelque chose que je ne connais pas. C'est pour ça que l'adhésion va impliquer, du côté de mon intelligence, c'est vraiment l'intelligence qui veut dépasser la situation et qui adhère. Et dans la négation, l'intelligence recule. Deux mouvements. C'est très curieux. C'est comme il y a les deux mouvements passionnels de l'amour et de la haine. Et il y a un parallélisme à faire entre les deux. Il y a un parallélisme. L'amour implique toujours un jugement affirmatif. Et la haine, c'est le jugement négatif porté à l'absolu. Très curieux, vous voyez, puisqu'il y a le côté affectif sous le côté de l'intelligence. Il y a toujours le point de vue de l'intelligence qui est présent. Je dis ça, c'est parce que c'est un parallélisme qui est intéressant à faire, parce que nous voyons mieux comment, de fait, au niveau affectif, les deux grands aspects, amour et haine, eh bien, ces deux mouvements, amour et haine, ont un fondement dans la vie même de l'intelligence, dans l'adhésion et la négation. L'intelligence affirme, l'intelligence nie. Alors là, il y a un très gros problème. Si je ne veux pas rentrer trop dedans, un très gros problème pour savoir l'ordre qui existe entre les deux. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'affirmation? Est-ce que c'est la négation? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment l'affirmation qui est première? Ce qui est très curieux, c'est que, de fait, dans la philosophie grecque, l'affirmation est toujours dite première et la négation est dite seconde. Et le grand signe qui est donné à cela, c'est que l'affirmation s'affirme d'une façon très simple par le « ceci est », le jugement d'existence, et quand vous dites au contraire « ceci n'est pas », la négation vient s'ajouter. Donc, si la négation vient s'ajouter, il y a au fond une expression, il y a une expression nouvelle pour la négation qui vient s'ajouter à l'affirmation. L'affirmation est simple, elle est plus simple. La négation implique toujours quelque chose de plus. Alors ça, c'est le petit signe, pas plus que ça, c'est un signe. C'est un signe qui indique que la négation présuppose. Pouvons-nous nier sans qu'il y ait une certaine affirmation? C'est la question qu'il faut se poser alors. Je regarde le signe, vois qu'en effet que la négation implique toujours quelque chose de plus. Ceci n'est pas, ceci est. Alors, ça veut dire que de fait la négation va s'ajouter à cette affirmation dans laquelle je m'engage. Alors je peux me poser la question plus profondément, pas seulement au niveau du signe. Est-ce que toute négation ne présuppose pas une certaine affirmation? Une possibilité d'affirmation. Vous voyez? Toute négation ne présuppose-t-elle pas une possibilité d'affirmation? Ce qui montre bien, et je pose la question, ce qui montrerait bien que l'affirmation est première. Ça, c'est toute la question de la vie de l'intelligence qui, face à la réalité, adhère à la réalité. Voyez, dans une perspective réaliste, donc prima de l'objet, on dira que l'affirmation est première. Il faut avoir un certain sens de ce qu'est la réalité pour pouvoir l'affirmer ou la nier. Autrement, donc il y a au moins une appréhension antérieure, c'est sûr. Et l'appréhension donne la possibilité du jugement affirmatif. D'où connaître. Dans la perspective moderne,
Alors là, il faudrait voir à partir de quel moment. Parce que ce n'est pas dit explicitement chez Descartes. Mais au fond, c'est déjà commandé chez Descartes. Dès qu'il y a le primat du sujet sur l'objet, dès que je considère que l'objet est relatif au sujet et que l'objet est en dépendance du sujet connaissant et non pas l'inverse, à ce moment-là, la négation va être mise en pleine lumière comme la première opération. Je vais essayer de saisir ça, c'est intéressant et c'est important. C'est important parce que c'est quand même une chose très importante. Au point de vue psychologique, on ne peut pas nier que, c'est très difficile de nier, que la négation est plus proche de notre conditionnement. Quand vous niez, vous affirmez votre supériorité sur l'objet. Vous prenez du recul. Puisque l'affirmation, c'est un engagement. Vous vous liez. Tandis qu'au contraire, dans la négation, vous prenez du recul. Et vous prenez le plus de recul que vous pouvez en niant. Et donc, c'est l'exaltation du sujet. L'affirmation n'exalte absolument pas le sujet connaissant, puisque l'affirmation montre au contraire le lien qui existe entre le sujet connaissant et la réalité, et la dépendance que j'ai vis-à-vis de ce sujet. La dépendance que j'ai vis-à-vis de l'objet, vis-à-vis de la réalité que j'affirme. Ceci est. Donc je suis entièrement relatif à cette réalité. Tandis qu'au contraire, dans la négation, j'affirme que je suis capable de dépasser cela. Ceci n'est pas. Je prends le recul. Et donc il y a une exaltation du sujet connaissant. C'est pour ça que psychologiquement, la négation est première. Je crois qu'on pourrait dire que psychologiquement, la négation est première et que dans une perspective d'une philosophie réaliste du primat de l'objet, l'affirmation est première. Et ceci est vérifié historiquement dans la philosophie quand on voit que les philosophes grecs qui étaient réalistes affirment toujours le primat du jugement. Du jugement affirmatif. Et que le jugement négatif est toujours, présuppose tout le temps le jugement affirmatif. Tandis qu'au contraire, vous voyez dans la philosophie contemporaine un primat de la négation. Il y a un primat de la négation dans la philosophie contemporaine, c'est très net. Et ce primat de la négation provient de la subjectivité transcendantale qui est de plus en plus affirmée. Alors, plus la subjectivité transcendantale est affirmée, plus il y a un primat de la négation. Parce qu'au fond, vous comprenez là comment le sujet, connaissant, s'établit comme lui-même. Il s'établit pour lui-même. Alors évidemment, ce n'est pas explicite chez Occam et chez Descartes, puisqu'ils disent le cogito. Mais ils ne considèrent pas le cogito comme une affirmation, ils le considèrent comme une appréhension, une intuition. Là, c'est très curieux de voir ça. Ça, il faut au moins le noter. Il y a moins un gros problème, un problème très intéressant au plan critique, c'est de savoir si l'affirmation est première ou si la négation est première. Alors essayez de comprendre que dans une... Nous le reverrons en voyant la diversité des jugements, mais il faut tout de suite le situer. Si dans la vérité, dans le jugement, il y a le problème de la conscience, il y a en plus le jugement est capable d'être vrai. Le jugement est capable d'être erroné. Mais le jugement est capable d'être vrai. La vérité peut apparaître dans le jugement. La vérité n'apparaît pas dans l'appréhension. Il n'y a pas de vérité dans l'appréhension. Tandis qu'au contraire, à l'intérieur du jugement, à l'intérieur de l'adhésion, il peut y avoir vérité. La vérité affecte le jugement. Alors il faut bien saisir ici ce que représente ce problème de la vérité. Il faut donc d'abord comprendre que la vérité a des modalités extrêmement diverses. n'y a pas qu'un seul type de vérité. Et au point de vue critique, c'est très important de regarder toutes les vérités possibles. Parce que si on ne regarde qu'un seul type de vérité, on risque toujours de prendre ce type de vérité comme un absolu. Alors que la vérité est toujours relative. Elle est une qualité du jugement. Elle qualifie le jugement. Alors comment la vérité va-t-elle qualifier le jugement? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, essayons d'expliquer cette fameuse définition qu'on a donnée de la vérité, qui n'est pas une définition, mais qui est une affirmation explicite. Qu'est-ce que c'est que la vérité? L'adéquation de l'intelligence et de la réalité. La conformité de l'intelligence et de la réalité. Alors, il s'agit de bien comprendre ça, parce qu'au fond, on a très mal compris bien souvent. On affirme ça, on ne voit pas du tout ce que vous avez dit. Il s'agit de bien comprendre ce que ça veut dire quand vous dites que la vérité, c'est la conformité de l'intelligence et de la réalité. Alors, essayons de saisir ça, et puis immédiatement après, je vous montrerai et vous rappellerai la diversité des vérités pour vous montrer qu'il faut faire grande attention devant cette affirmation. Si j'analyse le jugement, je prends le jugement affirmatif. Et je prends comme jugement affirmatif le jugement le plus simple, le jugement d'existence, ceci est. Dans celui-là, pour en avoir un dans l'esprit, ceci est. Quand vous dites ceci est, vous vous référez à une réalité existante. C'est ça que vous voulez dire. Ceci est, cette réalité existe, cette réalité est. Alors, où va se situer la vérité du jugement d'existence? Comment comprendre que ce jugement d'existence est vrai? Oui, et vous êtes capable de dire ce que je t'affirme est vrai. Enfin, si vous êtes en fait en face de quelqu'un qui doute, je puis t'affirmer que ce que je t'affirme est vrai. Vous voyez, vous avez donc la possibilité de, dans une attitude réflexive, et ça c'est très important de comprendre cela, dans une attitude réflexive, de dire ceci est vrai. Alors, il faut donc comprendre d'abord, ce que nous avions dit tout à l'heure, le jugement implique la conscience. Il n'y a pas de conscience sans réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion quand je juge? C'est une auto-lucidité. L'intelligence a cette possibilité d'avoir cette lucidité au-dedans d'elle-même et en elle-même. Et c'est ça, cette attitude réflexive. Quand je pense, je peux réfléchir que je pense. C'est très curieux. Je peux réfléchir que je pense. Donc, je peux me regarder pensant. Ne faites pas trop, parce que ce n'est pas la peine. Mais vous pouvez regarder plutôt l'autre qui pense. Mais vous pouvez vous-même vous regarder pensant. On peut toujours, quand il s'agit de toute notre vie affective, on peut se regarder comme aimant. Ça, ça fait des coups de frein. Dès que vous vous regardez aimant, vous aimez moins. Parce que c'est l'intelligence qui reprend le pas sur l'amour. Tandis que quand vous vous regardez pensant, alors est-ce que je pense moins? Oui, parce que c'est un autre acte qui fait que je me regarde pensant. Ce n'est pas mon acte premier. Donc j'ai deux actes. Et comme ma vitalité est limitée, si à première vitalité, je pense, s'ajoute un autre acte. Je me regarde pensant, mon acte de pensée est moins intense. Je médite et je me regarde méditant. Alors à ce moment-là, ma méditation diminue. Et c'est mon regard sur la méditation qui s'intensifie. Oui. On voit ce que c'est. On en meurt. C'est l'attitude réflexive, c'est l'attitude. En dernier lieu, sera le scrupule. Le scrupule, c'est ça. Tout le temps, à réviser ses actes et à revenir. L'attitude réflexive, c'est l'attitude psychologique. L'attitude psychologique est une attitude réflexive. On réfléchit sur la conscience que j'ai de l'acte. Alors que la conscience doit être une auto-lucidité dans l'exercice même de l'acte.
Et au fond, la conscience est au service de mon acte, et non pas mon acte au service de ma conscience.
Oui, c'est très important de voir la différence entre les deux.
Parce que quand vous réfléchissez trop sur votre vie de pensée, votre vie de pensée diminue et votre réflexion prend tout. Donc la réflexion que vous avez de pensée diminue votre pensée. Alors, à ce moment-là, vous faites que l'acte de pensée, l'acte d'affirmation, est au service de la réflexion. Alors, pas du tout la réflexion, est au service d'une auto-lucidité. Donc, il y a cette idée de réflexion.
Dans toute conscience, il y a un dédoublement. Tout. C'est pour ça qu'il y a une réflexion. Dès que vous prenez conscience que vous pensez, il y a un certain dédoublement. Et donc, il y a une possibilité à ce moment-là de réfléchir plus profondément et de vraiment regarder les deux actes de pensée. Et quand il y a ces deux actes de pensée, la réflexion risque toujours d'arrêter l'autre. Donc là, il y a un petit phénomène très très important qui est propre au jugement. Dans l'appréhension, il n'y a pas ça. Pourquoi n'y a-t-il pas de conscience dans la réflexion ? C'est parce que c'est un acte simple, un acte élémentaire. Il n'est pas parfait. Tandis qu'au contraire, de l'autre côté, il y a une possibilité de réfléchir sur la propre conscience que j'ai de penser. Si vous êtes trop attentif à cette attitude de réflexion sur votre propre jugement, sur votre propre pensée, vous arrêtez de penser. Exactement comme on descend l'escalier, vous savez, quand vous descendez à toute vitesse escalier, vous êtes pressé, puis tout d'un coup vous mettez à penser que vous descendez à toute vitesse escalier. C'est très très dangereux. Eh bien, c'est exactement la même chose, la pensée. Il y a une pensée instinctive, quasi naturelle. Et dès que vous commencez à regarder, il y a un arrêt. Ce sont des coups de frein. Très curieux. C'est bon la réflexion. C'est bon le point de vue de la conscience. Mais c'est, attention, c'est second. Au service de la réflexion. Ça, c'est parce que, très important, dans notre vie d'aujourd'hui, on met tellement la réflexion au-dessus de la pensée, on a tellement peur de la naïveté de la pensée. Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, dit qu'il faut chercher l'être sauvage. Très bien. Parce qu'il était tellement dans l'attitude de la phénoménologie qui impliquait cette attitude réflexive sur la propre pensée, cette réflexion arrête le développement instinctif et le progrès. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et c'est dans le jugement que nous voyons bien ça. Bon, il y a donc la possibilité de réfléchir sur mon acte de jugement, ceci est. Quand j'exprime ceci, il y a donc à l'intérieur même de mon jugement une proposition. J'exprime ceci. Il y a donc, c'est une proposition, et à l'intérieur de mon jugement, on a ce qu'on appelle une énonciation. L'énonciation, c'est le concept intérieur qui s'exprime en proposition. J'espère que vous arrivez à comprendre. Le concept complexe, il est composé, que je possède à l'intérieur même de mon acte de jugement. Voyez, nous avions vu comment dans l'appréhension, il y a un concept qui naît dans l'appréhension. Ce concept, je l'appelle verbe mental, je peux l'appeler idée. Vous vous souvenez,
n'est-ce pas ? Vers le concept, l'idée. Et puis ceci s'exprime dans un terme simple. Il y a un terme simple, ce terme simple veut dire animal. Quand vous dites animal, ça exprime le concept simple que vous avez de animal. Bon. Lorsqu'il s'agit du jugement, le jugement est une opération complexe. Elle implique composition et division. L'affirmation implique une composition, la négation implique une division. Ceci est, je compose. Ceci n'est pas, je sépare. Composition et division. Donc la seconde opération de l'intelligence implique composition et division. C'est-à-dire implique affirmation et négation, tout simplement. Je peux réfléchir sur cette opération et voir qu'il y a bien, à l'intérieur même de mon jugement, il y a un concept complexe
qu'on appelle énonciation. C'est le terme technique, il faut savoir. Vous énoncez quelque chose, c'est ça, l'énonciation. Cette énonciation va s'exprimer dans la parole, dans une proposition. C'est très curieux qu'il y a les deux mots, hein. Énonciation et proposition. La proposition, c'est tout simplement quand on dit « ceci est ». Là, c'est une proposition, et une proposition affirmative. Vous pouvez avoir une proposition négative. Alors, quand vous dites cette affirmation « ceci est », je vous dis que c'est vrai. Réfléchissez tout simplement sur cette affirmation « ceci est », je vous dis que c'est vrai. Quand vous reconnaissez que votre jugement est vrai, opération très importante de l'intelligence. Et le jugement n'est parfait que quand il est vrai. Un jugement qui n'est pas parfait n'est pas vrai. Un jugement parfait dit la vérité, exprime la vérité. Alors quand je dis ceci est vrai, qu'est-ce que je dis en disant cela? Quel est le contenu, quelle est la signification de cette affirmation? Je vous affirme que ceci est vrai. Je reconnais que ce que j'ai dit est conforme à la réalité existante. Donc la conformité de l'intelligence avec la réalité existante est au niveau de l'énonciation et non pas au niveau de la vie de l'intelligence. Ça, c'est capital de le comprendre. Autrement, on ne saisit rien du tout à ce que représente le point de vue de la vérité. Je reprends pour que vous compreniez, mais ça, c'est très important. C'est très important à bien situer exactement où se situe cette qualification quand vous dites ce jugement est vrai. Si je prends le jugement, encore une fois, le jugement le plus simple, ceci est. On verra d'autres jugements plus complexes après. Mais quand je prends ce jugement très simple, ceci est, je vous dis que c'est vrai. Ce jugement est vrai. Donc quand vous dites ça, vous êtes capable de réfléchir sur votre acte intellectuel. Et vous reconnaissez que cet acte intellectuel, que ce jugement, ce discernement, que ce jugement affirmatif implique une énonciation, et que cette énonciation que vous avez formée au-dedans de vous-même, ce verbe mental, ce concept complexe, est conforme à la réalité existante. La réalité existante devient la mesure de mon énonciation. Et mon énonciation est mesurée par cette réalité. Il y a donc quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît ici avec le jugement. Quand il s'agit de l'appréhension, je parle de l'objet qui détermine mon intelligence. Quand je parle du jugement, et quand je parle de la vérité du jugement, je parle de la mesure. L'énonciation est relative à la réalité existante. Et cette énonciation est vraie quand elle est conforme à cette réalité existante. Et donc quand elle est mesurée. Vous voyez donc, intervient ici quelque chose de tout à fait nouveau dans l'ordre de la vie de l'intelligence. Ce n'est plus simplement l'objet qui détermine. Il faut bien que mon jugement soit déterminé pour qu'il y ait énonciation. Détermination. Cette énonciation a une certaine signification. Mais le problème de la signification et le problème de la vérité. Tout à fait deux choses différentes. Le problème de la signification, c'est le contenu affirmé. Ceci est. La signification est au niveau du ceci. Ceci porte la signification. C'est pas « est » au sens « Lorsque je regarde l'appréhension, je suis dans l'ordre de la signification. Vous vous souvenez, j'ai insisté là-dessus en disant le dépassement de la représentation qui est au niveau de l'image et le concept est porteur de signification. Et c'est le concept simple qui est porteur de signification. Dès que je suis en face d'un concept complexe, ce concept complexe implique encore une signification. C'est sûr. Garde toujours sa signification. J'ai lié ceci et lui est. Et donc
il y a toujours une signification dans ceci. Mais le problème de la vérité, ce n'est plus le problème de la signification. Le problème de la signification est au-delà de la vérité. Il est en dehors de la vérité. Tandis qu'ici je suis donc devant un problème nouveau, qui est le problème justement du mesuré à la mesure. Je suis en face d'un problème d'une relation de mesure à mesure. Voilà ce qu'apporte le problème de la vérité. Et voilà ce qu'apporte tout à fait, d'une façon caractéristique, le problème du jugement. Le problème du jugement m'apporte quelque chose de nouveau dans l'ordre de la connaissance, qui n'est plus de l'ordre de l'objet, qui est comme un dépassement de l'objet et le problème de la signification, et qui me met en face de la mesure et du mesuré. L'énonciation propre au jugement, cette énonciation complexe, demande d'être mesurée. Pourquoi ? Parce qu'elle est complexe. J'ai composé deux aspects, puisque je les ai composés. Je me demande si cette composition, c'est moi qui ai fait cette composition. C'est mon intelligence qui fait cette composition. On peut dire que l'intelligence, vous voyez, qui juge, est une intelligence qui crée une composition. Au-dedans de moi, je crée cette composition, ou je crée cette division. Mais c'est moi qui l'a fait. Et parce que c'est moi qui fais cette composition et qui fais cette division, je peux me poser la question, est-ce que cette division est légitime ? Est-ce que cette composition est légitime ? Elle est légitime si elle est conforme à sa signification profonde. Et comme elle signifie la réalité, il faut me demander si la réalité, si cette composition est conforme à la réalité. Et ce nouveau problème, c'est le problème de la mesure. Donc là, vous avez deux grands problèmes qui sont très très importants au point de vue de la vie de l'intelligence. Le problème de la signification et le problème de la mesure. Le problème de la signification va dans le sens de l'objet et le problème de la mesure va dans le sens de la vérité. Et plus exactement, grâce à cette relation de mesurer à mesurer, je peux comprendre la conformité de ce que je dis avec la réalité. M'affronter à la réalité. Nous reviendrons tout à l'heure pour savoir exactement ce qui est impliqué dans cette composition. C'est intéressant de voir ça, nous y reviendrons. Je voudrais avant vous montrer tout de suite qu'il y a d'autres jugements, il y a d'autres jugements que le jugement d'existence, il y a donc toute une variété de jugements, et qu'en fonction de cette variété de jugements, le problème de la vérité va se poser de façon très très différente. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que quand vous définissez la vérité adéquatio intellectus ad rem, faisons attention, vous définissez là un type de vérité. La vérité élémentaire du jugement d'existence. Cette vérité élémentaire du jugement d'existence. Adéquatio intellectus, donc l'adéquation de l'intelligence à la réalité existante. C'est mon intelligence qui saisit cette réalité et qui dit cette réalité. Ce que je saisis cette réalité est conforme à cette réalité existante. Alors, regardons maintenant tout de suite la grande diversité des jugements. Je ne vais pas vous donner ça de façon exhaustive, mais simplement pour vous montrer combien, quand je suis dans la critique du jugement, les jugements impliquent très très grande diversité. Et comme la vérité qualifie le jugement, chaque fois que je suis devant cette diversité, je pourrais dire, je suis en face d'une nouvelle vérité qui va apparaître. Alors, j'ai donc le jugement d'existence. Le jugement d'existence, il est fondamental. De tout fait, ceci est. Vous avez ensuite un jugement qui porte sur les principes. Sur les principes propres. Quand vous dites, par exemple, prends n'importe quel principe, prenez n'importe quel principe de l'ordre, au point de vue philosophique, quand vous dites la nature, je prends exprès celui-là, la nature est principe immanent de ce qui est. Le principe, la physique, la nature, la physique, c'est le principe immanent de ce qui est.
quand vous dites l'âme est principe de vie. L'âme est spirit, l'âme est principe de vie. La psyché est principe de vie. Donc vous êtes en face d'un principe propre. Vous comprenez très bien que ce jugement a une valeur tout à fait différente que le jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence, il constate que telle réalité existe. Ceci est. C'est le prima qui fait. Faites exister. C'est ce qu'on appelle le topo-tout. Je vous donne en grec, parce que comme ça vous comprenez mieux. Toujours mieux, c'est vrai. Vous revenez à l'origine. Ça passe en milieu. C'est vrai. C'est.
Le latin confond et le grec clarifie. Alors il faut toujours regarder le point de vue.
Alors il faut regarder le fait d'exister.
Alors le principe propre.
Le principe propre, quand vous saisissez un jugement qui donne un principe propre, la nature est principe immanent de ce qui est, principe immanent dans la réalité de ce qui est vu. Donc quand vous donnez ce principe a une valeur universelle.
Il a une valeur de nécessité. Tandis que le jugement d'existence constate un fait d'exister, un jour. Cette réalité existe, mais ne pourrait très bien pas exister.
Vous existez, vous pourriez très bien pas exister. Toute la délicatesse que je dois vis-à-vis de vous, vous pourriez très bien ne pas exister. Ce n'est pas nécessaire que vous existiez. Le monde ne serait pas changé si vous n'existiez pas. Il y aurait quelque chose de changé, c'est que vous n'êtes pas là. Ça, c'est très vrai. Pour vous, c'est très capital. Pour soi, mais autrement, c'est contingent, en fait, d'exister. Tandis qu'au contraire, un principe, pas du tout, un principe, c'est nécessaire.
Quelque chose d'universel, quelque chose de nécessaire.
Et alors, quel est le critère de vérité d'un principe ? C'est pas, puisqu'au fond, la vérité consiste toujours, je vous ai dit, c'est l'idée de mesure et de mesurer. La vérité apparaît, non pas quand il s'agit de la signification, la nature a sa propre signification, c'est évident, c'est sa propre signification, mais je peux chercher la qualité propre de ce jugement qui est mis un principe propre. Ce jugement, je vous dirais, il est vrai. Comment pouvez-vous dire qu'un jugement est vrai? Et c'est ça qui fait comprendre le scepticisme. Comment pouvez-vous dire qu'un jugement est vrai? Puisque vous ne constatez pas directement le fait d'exister. Qui dit jugement dit quelque chose qui est au-delà du fait d'exister. C'est toujours ça que les psychanalystes vous font dans les pattes. Vous avez des principes, mais vos principes, qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai? Parce que vos principes, vous montrez-le moi. Vous ne pouvez pas montrer un principe. Vous ne pouvez pas dire, voilà. La nature, c'est ça. Non, c'est pas ça. La nature, c'est ça par l'intelligence.
Tandis que dans les jugements d'existence, il y a la possibilité de montrer ce fait d'exister, ceci, je le constate, et je le montre, et je peux le montrer du doigt.
Cet homme existe, Pierre existe.
Tandis que lorsqu'il s'agit du jugement, d'un jugement qui porte sur un principe propre,
vous l'avez saisi, votre intelligence a saisi ça, comment découvrir la vérité de ce jugement ? Hein, vous seriez tous coincés. Qu'est-ce qui fait la vérité? J'ai dit tout à l'heure, qu'avec le point de vue de la vérité, on est en présence d'une relation nouvelle, mesurée. Quelle est la mesure du principe?
C'est le principe lui-même.
C'est le principe lui-même. Le principe n'est pas mesuré par autre chose, il serait du principe. Qui dit principe dit quelque chose de premier. Qui dit mesure dit quelque chose de premier. Un principe, c'est quelque chose de premier. Si je vais au-delà du principe, je relativise le principe, il n'est plus principe. Donc si je mesure le principe, il n'est plus principe. Or, voyez la définition qu'on a donnée de la vérité. Hein? Adéquation intellectus ad rem. L'adéquation de l'intelligence et de la réalité. Dès que vous êtes au niveau de la saisie des principes, dès que vous êtes au niveau de l'affirmation d'un principe,
pouvez plus prendre ça comme définition de la vérité. Vous êtes obligé de... Or, c'est quand même très important. Donc, nous arrêtons quelques minutes pour que vous trouviez la